Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 18 janvier. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza lorsqu'il a annoncé par voie de presse le nouveau protocole pour la rentrée de janvier. Les syndicats d'enseignants parlent de légèreté et de désinvolture. On voit ça, Anaïs, après les autres titres.
La hausse constante des carburants depuis des semaines. Record de 2013 battu pour le sans-plomb. 1,68€ le litre. Nous verrons pourquoi. Rebond de l'épidémie de coronavirus en Chine. Il n'y aura pas de billetterie pour les JO qui débutent le 4 février. Les satellites, seul moyen d'observation des Tonga coupés du monde après l'éruption du volcan. Et Quentin Mahé, artificier des handballeurs français qualifié pour le tour principal de l'Euro.
Et les invités d'Inter ce matin avec vous, Léa, à 7h50.
Après le tumulte et le fracas de l'affaire Olivier Duhamel, il devra apaiser Sciences Po, répondre aussi aux critiques sur une école de l'entre-soi et des élites. Le tout nouveau patron de Sciences Po Paris nous accorde sa première interview. Mathias Vichra sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. À 8h20, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec la nouvelle candidate à l'élection présidentielle, Christiane Taubira. Vous pourrez dialoguer avec elle, évidemment. Le standard vous attend. Il est ouvert. Son numéro 01 45 24 7000.
France Inter. Ça n'a rien d'extraordinaire, dit le ministère de l'Éducation nationale. Faire une interview en visio depuis son lieu de vacances, 4 petits jours de repos bien mérités et autorisés. Sauf que Jean-Michel Blanquer était à Ibiza quand il a annoncé la veille de la rentrée scolaire le nouveau protocole sanitaire pour les écoles dans le Parisien. Information hier de Mediapart que le ministère confirme à France Inter. De quoi Simon Le Baron soufflait sur les braises à l'école, même si le gouvernement assure qu'il n'y a aucune faute.
Jean-Michel Blanquer a respecté les consignes. Voilà la ligne de défense officielle fixée au sommet de l'État. Être joignable, suivre ses dossiers, pouvoir rentrer rapidement à Paris. Il est resté en lien permanent avec nous, ajoute son cabinet Rue de Grenelle, qui assure que le ministre a multiplié les visios depuis les Baléares. Et s'il a dévoilé si tardivement, à la veille de la rentrée, le protocole tant décrié, ce n'est pas parce qu'il était en vacances, se défend encore son entourage, mais parce que le Haut Conseil de la Santé publique avait rendu son avis tard, vendredi soir. Il n'empêche, certains de ses proches avaient bien tenté de lui dire de rentrer à Paris, et plusieurs de ses collègues le reconnaissent aujourd'hui. La destination, bling bling, jet set, ne peut que mal passer dans la période. Bref, pas une faute, mais pas malin, résume un conseiller. D'autant que le gouvernement pensait avoir calmé le jeu avec les enseignants après la grève de jeudi dernier. Emmanuel Macron, lui, n'a aucun intérêt à se séparer de son ministre de l'Éducation à moins de 3 mois de l'élection. Mais le président reste volontairement silencieux pour l'instant. Pas de commentaire, dit l'Élysée, comme s'il préférait attendre de voir la tournure des événements.
Première conséquence, la réaction ce matin du syndicat SNES-FSU. Écoutez sa secrétaire générale, Sophie Vénétité.
Bien évidemment, tout le monde a le droit de prendre des vacances, mais là, on était quand même la veille d'une rentrée très particulière, une rentrée sous cinquième vague. On était tous, nous, en tant qu'enseignants, directrices, directeurs d'école, en train d'attendre comment est-ce qu'on allait pouvoir faire la rentrée. Et puis là, on découvre qu'en fait, le ministre était à des milliers de kilomètres de là, et peut-être même quelque part à plusieurs kilomètres de toutes ses préoccupations. Et c'est vraiment cette impression de légèreté, de désinvolture dans la façon de traiter cette question-là. Et c'est vraiment un symbole terrible pour le ministre et pour l'Éducation nationale.
La secrétaire générale du SNES, Sophie Vénétité, ces révélations n'arrangent pas en tout cas la position du ministre. C'est à lire sur franceinter.fr, tout comme l'article sur la nouvelle journée d'action après-demain dans les écoles. Rassemblement et grève prévus ce jeudi 20. Et dans ce climat de défiance, voilà un autre indicateur surveillé de près par l'exécutif, le prix des carburants. Chiffre du ministère hier, le litre de gasoil a dépassé 1,60€, record, plus cher même qu'en 2018, avant la crise des gilets jaunes. Le Brent est au plus haut depuis 7 ans. Écoutez les explications de Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine.
La flambée actuelle des cours est liée un peu à la faiblesse de l'euro par rapport au dollar, et surtout à la hausse assez considérable du pétrole. Les prix du pétrole sont aussi corrélés à notre anticipation sur l'impact que le variant Omicron va avoir sur la vie économique de la planète. S'il y a moins de Covid, nous voyagerons plus, nous prendrons nos voitures, nous prendrons l'avion, à un moment où les producteurs, eux, montrent quelques difficultés, même à tenir leurs engagements, parce qu'il y a des problèmes en Nigeria, en Angola, en Libye, La semaine dernière, c'était le Kazakhstan, qui est quand même un producteur relativement important.
Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières avec Julien Langlais. L'essence au plus haut et à 3 mois de la présidentielle, nouvelle contestation sociale. Psychologue, éducateur spécialisé, assistante sociale dans la rue aujourd'hui, grève du secteur médico-social. 450 000 à 1 million de professionnels sont concernés dans le public et le privé pour des revalorisations salariales comme celle des soignants. Soignants encore sous tension, 3000 patients Covid de plus qu'il y a une semaine à l'hôpital, même si c'est stable en soins critiques. Près de 300 personnes sont mortes du Covid hier en France et les contaminations restent à un niveau très élevé.
Et hausse des contaminations aussi en Chine, il est 7h06, mais sans commune mesure avec la France.
223 cas officiels enregistrés hier, un sérieux rebond tout de même de l'épidémie dans un pays qui tient depuis 2 ans sa ligne zéro Covid. Il y a des foyers dans plusieurs villes à moins de 3 semaines du début des JO de Pékin. Les étrangers ne pourront pas y assister, mais on sait désormais que les Chinois en seront privés aussi. Il n'y aura finalement pas de billets, mais quelques invitations. Reportage de notre correspondant Sébastien Berriot à Pékin.
La décision a été difficile à prendre, mais le risque de voir apparaître des clusters géants dans les gradins des Jeux Olympiques a fait pencher la balance. La vente des billets est annulée avant même d'avoir démarré. Et c'est évidemment une grosse déception pour les nombreux amateurs de sports d'hiver en Chine qui espéraient pouvoir décrocher une place. Réaction recueillie tôt ce matin dans un centre sportif de Pékin.
Je comprends bien, mais je trouve que c'est injuste, parce que Pékin contrôle bien l'épidémie. Et puis, cela fait si longtemps que nous préparons cet événement international de grande ampleur. Donc je pense que ce n'est pas raisonnable. Les gens devraient avoir le droit d'aller assister aux épreuves. S'ils se protègent bien, ils devraient pouvoir y aller.
Bien sûr, je voulais être là aux épreuves, mais en raison de l'épidémie, nous comprenons la décision. Nous allons regarder ça à la télévision. Je suis un peu déçu, mais nous devons tous nous donner la main pour lutter contre l'épidémie.
Ce qui fait peur aux autorités, c'est le variant Omicron qui a réussi à faire son entrée à Pékin ce week-end, malgré les mesures de protection draconiennes imposées aux entrées de la capitale. Aussitôt, une campagne de dépistage a été lancée, mais uniquement dans le quartier concerné. Le reste de Pékin continue pour le moment de vivre sans nouvelles restrictions particulières. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Les patrons de 10 compagnies aériennes américaines alertent sur une calamité économique complètement évitable. Le déploiement de la 5G risque de perturber plus de 1000 vols par jour. La 5G installée trop près des tours de contrôle peut causer des interférences sur les instruments de bord des avions. L'élection aujourd'hui du nouveau président du Parlement européen à Strasbourg, la Maltaise Roberta Metsola est favorite. Son portrait tout à l'heure dans le journal à 7h30. Et puis à l'autre bout du monde, les îles Tonga, toujours privées de communication après l'éruption d'un volcan sous-marin, l'une des plus puissantes des dernières décennies dans le monde. Le nuage de cendres empêche les avions d'atterrir. Impossible donc de connaître l'ampleur des dégâts. Il semble impressionnant. Seule l'observation depuis les bateaux néo-zélandais et les satellites permettent de suivre la situation. Sophie Bécherel.
Le Unga Tonga Unga Apai est un volcan immergé. Il fait 1800 mètres de haut, 20 km de diamètre à sa base. Il est posé au fond de l'eau et seule une petite partie affleure au-dessus du niveau de la mer. Depuis qu'il s'est réveillé en décembre, il a connu différentes explosions et les images satellites avant et après ont permis de voir une première évolution morphologique, détaille Raphaël Grandin, géophysicien à l'Institut de physique du globe de Paris.
Les images satellites qu'on a pu collecter juste après cette explosion ont montré qu'une partie, la partie centrale de l'île, s'était affaissée, avait disparu, n'était plus visible dans les images satellites. Donc c'est effondré ou alors a été pulvérisé.
Gêné par le panache de cendres et de fumée, les satellites optiques ne peuvent actuellement pas voir grand-chose. Ce sont les satellites radars qui sont en capacité de percer le mur opaque actuellement présent au-dessus du volcan. Quant aux satellites météo à 36 000 km d'altitude, ils apportent d'autres informations encore, précise Raphaël Grandin.
Les satellites ont permis de démontrer que le panache généré par l'explosion du 15 janvier est monté jusqu'à 30 km d'altitude dans la stratosphère. Dernière observation satellitaire qui est très importante, c'est celle des satellites comme le satellite Sentinel-5 qui permettent de cartographier la concentration de dioxyde de soufre d'origine volcanique produite par l'explosion.
Le seul endroit inaccessible aux satellites, c'est ce qu'il y a sous la mer. Il faudra une campagne bathymétrique de relevé des fonds marins pour révéler le remodelage du volcan des îles Tonga.
Les explications de Sophie Bécherel, spécialiste sciences de France Inter.
Et c'est une préoccupation pour beaucoup de parents. Comment protéger les enfants des contenus violents ou pornographique sur Internet.
Le contrôle parental n'est pas toujours simple à activer. Le Parlement examine donc cet après-midi une proposition de loi de la majorité pour imposer aux fabricants des dispositifs gratuits et faciles d'emploi. Laurent Kramer.
Alors que plus de 90% des enfants et adolescents ont aujourd'hui accès à Internet par une tablette familiale ou leur propre téléphone, seule une minorité de familles est aujourd'hui capable de mettre en place le contrôle parental. Avec cette proposition de loi, les constructeurs auront l'obligation de proposer un filtrage simple des contenus violents et pornographiques, explique Bruno Studer, député LREM à l'origine du texte.
Et bien là, dans ce parcours utilisateur, on vous posera la question de savoir si vous voulez activer ou pas le contrôle parental qui est préinstallé. En gros, on envoie la question aux parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas mettre de contrôle parental sur cet appareil? Et l'objectif, c'est de dire que on va mettre des standards pour que tout le monde puisse le plus facilement possible exercer ce qui est quand même très compliqué, c'est-à-dire la responsabilité d'être parent à l'ère du numérique.
À charge pour les fabricants de tablettes, smartphones ou ordinateurs de préinstaller et de certifier la présence d'un contrôle parental pour tout matériel vendu en France.
L'Allemagne regarde très près ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, il n'y a pas un pays qui a pris une telle disposition que celle que la France s'apprête à prendre. On va solliciter un avis de la CNIL avant la prise du décret en Conseil d'État qui viendra dire ce que sont les fonctionnalités minimales d'un contrôle parental sur Internet.
Bruno Studer estime que les géants du numérique accepteront de jouer le jeu pour se mettre en conformité avec cette disposition française.
Et puis hier à Versailles, pour la première fois, Twitter jugé au pénal en France pour avoir refusé de répondre à la justice. En mars dernier, la gendarmerie lui avait demandé de transmettre des informations pour identifier les auteurs de tweets injurieuses que l'entreprise n'a pas fait. L'amende maximale a été requise. Les Bleus du handball rejoignent sans ciller le tour principal de l'Euro en Hongrie. 3 rencontres, 3 victoires. Hier soir, 29 à 25 contre la Serbie. Avec un flamboyant Quentin Mahé, Jean-Pierre Blimeau.
6 buts en une seule mi-temps, une activité débordante et une réelle influence sur l'efficacité française. Quentin Mahé a dynamisé l'attaque tricolore et s'est montré déterminant pour éteindre très vite une équipe de Serbie dépassée en défense. Ça vaut bien l'hommage des lignes arrières et notamment du jeune défenseur Karl Konan.
Il est sur un nuage depuis le début de la compète. Donc en attaque, on lui donne les clés, il mène le jeu. Et encore une fois, il monte son niveau international.
Mais Quentin Mahé n'est pas du genre à tirer la couverture à lui.
C'est notre force, c'est que voilà, chaque match, il y a quelqu'un qui se met en avant, qui est décisif. Aujourd'hui, voilà, je l'ai été un peu plus que sur d'autres matchs.
L'entraîneur Guillaume Gilles rappelle aussi que son demi-centre est capable de toutes les acrobaties.
On connaît les qualités de puncher de Quentin, sa capacité à trouver des situations de shoot dans des séquences parfois qui lui appartiennent.
En fait, les Bleus avaient prévu d'étouffer une fois de plus leurs adversaires d'entrée de jeu, poursuit Dikamem, auteur du premier but hier soir.
C'est quelque chose qu'on fait depuis le début de la compète. Je pense que sur les 3 matchs, à chaque fois, on a super bien commencé. Et sur les 3 matchs, on a été sérieux du début à la fin. Et c'est ça qui va nous faire grandir en tant qu'équipe.
Quentin Mahé, décisif en attaque, le gardien Vincent Gérard a lui aussi brillé dans les buts français, avec 12 arrêts au total et même 2/3 des tirs adverses arrêtés au cours de la première période. Énorme.
Et les Français débuteront le tour principal, ce sera jeudi prochain à Bucarest. On connaîtra leur adversaire après la fin du premier tour ce soir.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes aujourd'hui au Kazakhstan. Des victimes de la torture et de la terreur témoignent.